Bonjour et bienvenue dans Les mots qui délivrent, le podcast 100% belge qui parle d'écriture et de lecture. Tu vas découvrir à quel point les mots nous font du bien et peuvent même parfois nous sauver. Moi, c'est Héloïse. Je suis coach littéraire et bibliothérapeute. J'ai fondé Le mot qui délivre et le Slow Reading Club après avoir renoué avec la magie des mots et le plaisir des livres. Les histoires m'ont toujours passionnée, et plus encore celles des gens, des vrais, ceux que tu croises dans la rue, avec qui tu parles autour d'un café. Je suis convaincue que nos vies sont la plus grande source d'inspiration. Tout est là. Il n'y a plus qu'à observer, se poser et raconter. Dans ce podcast, j'interviewe des personnes pour qui les mots ont pris une place capitale, que ce soit à travers la lecture ou l'écriture. Des personnes comme toi et moi, qui naviguent à travers la vie avec cette boussole-là. Quels sont les mots qui aident à avancer ? Quels sont les mots qui aident à mieux se connaître, à se libérer ? Parce que oui, les mots délivrent. Et c'est ce qu'on va découvrir avec notre prochaine invitée. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Sarah, la fondatrice de Nicole Magazine. Cette jeune femme audacieuse s'est lancée dans une vie indépendante le jour où elle s'est rendue compte qu'écrire sur la thématique de la sexualité féminine pouvait réellement impacter. Son projet a 2 ans, et on peut dire qu'elle n'a pas perdu de temps, car après le magazine en ligne, le blog, les rencontres, elle a sorti son premier livre fin 2021, Un dîner avec Nicole. Évidemment, cette histoire optimiste et engagée a titillé ma curiosité. Du coup, avec Sarah, on a parlé de plein de choses. D'écriture, bien sûr, mais pas que. Vous allez vous rendre compte qu'on est vite parti dans plusieurs directions. Mais comme dans son projet, tout se tient. Un ingrédient secret pour lier tout cela, la créativité, bien sûr. Belle écoute. Bonjour Sarah.
Bonjour Héloïse.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, et toi?
Ça va, je suis contente. Ça fait quelques semaines, peut-être quelques mois.
Oui, même quelques mois.
J'avais très envie de te revoir, on s'est déjà croisés. J'avais envie de te revoir pour parler de la sortie de ton livre « Dîner avec Nicole ». D'abord, félicitations.
Merci.
C'est un beau bébé qui est arrivé au monde. Un bébé littéraire. Comment tu te sens? C'est la première question que j'avais envie de te poser. En fait, comment tu te sens de te dire, voilà, devant nous, là, à côté du micro, il y a un livre, c'est le mien. Il y a un titre, il y a mon nom posé dessus et il est dans les mains de certaines personnes. Comment tu te sens?
Je crois que je ne réalise toujours pas. Voilà, je l'ai dans ma bibliothèque, mais je n'ose pas le rouvrir. Je ne l'ai pas rouvert, d'ailleurs, depuis.
Ouais.
Et voilà, maintenant quand je lis mon nom dessus, ben je suis contente, mais il y a toujours, j'ai l'impression, un peu un détachement, un manque de réalité
quand
je le vois.
Et pourtant il est là avec
nous. Oui, pourtant il est là.
Je sais, j'ai déjà vu des copines, je connais des personnes à Liège et autour qui l'ont déjà lu, parcouru. et là je trouve ça génial de me dire, Sarah a eu l'idée d'aller jusqu'au bout de son projet avec... cette matérialisation concrète hors du virtuel de Nicole. Donc Nicole, est-ce qu'on peut d'abord recommencer un petit peu l'histoire? Qui est Nicole?
Alors,
et qui
est
Sarah
Nicole,
avec Nicole?
Oui. Alors Nicole, c'était mon mémoire et mon jury de fin d'études. Donc moi, j'ai fait communication visuelle et graphique et puis un master en design éditorial.
Ouais.
Et donc, dans ce cadre-là, on avait le travail théorique sur un sujet et puis le travail graphique. Et donc, j'ai travaillé sur la perception du plaisir féminin dans la société.
Rien que ça, voilà. Toute jeune étudiante, tout va bien.
Et puis, Nicole est née dans la partie graphique. J'ai décidé de travailler sur un magazine papier, du coup, à ce moment-là, qui était très conceptuel, mais voilà, vraiment cette idée de déconstruire les tabous et libérer la parole sur la sexualité féminine, surtout, et sur l'intimité. Et puis, l'école se termine. Et normalement, Nicole avec, mais je sentais que j'avais encore des choses à faire avec ce projet, que j'étais pas arrivée au bout, j'ai dû arrêter pour une deadline, mais il y avait encore plein de choses à explorer.
C'est ça, ouais.
Donc voilà, j'ai lancé Nicole, et on va dire les 2 années qui se sont écoulées. Pour arriver aujourd'hui, Nicole, c'est une communauté finalement de personnes qui ont envie, voire même besoin, je pense, de parler de sexualité.
Ouais.
Donc il y a plusieurs choses, il y a des articles sur le blog, il y a la page Instagram où je traite pas mal de sujets aussi. Il y a le livre, bien évidemment.
Voilà, qui vient s'ajouter.
Qui vient s'ajouter, des événements aussi, et bientôt d'autres projets à venir. Mais c'est vraiment l'idée de déconstruire les tabous, ouais, et libérer la parole sur le plaisir féminin et sur la sexualité en général.
C'est ça. Et j'imagine que déjà beaucoup de personnes suivent. Je vois cette communauté, hein, qui est vraiment, il y a une adhésion très forte autour de cette proposition, parce que j'ai entendu envie, puis tu t'es reprise en disant bah, besoin, certainement. Ouais. Et je pense qu'effectivement, ça, cet enthousiasme, cette adhésion s'est créé aussi autour de ce besoin, très certainement, que ce soit en Belgique francophone ou ailleurs, mm-hmm, dans plein de pays du monde. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que tu parles de cette démarche, voilà, de recherche graphique, de travail, de TFE, etc. Et en même temps, dans mon souvenir très personnel, subjectif, quand je découvre Nicole sur Insta ou Facebook, la première chose que je vois, c'est du contenu.
Mm-hmm.
Donc, à un moment donné, il y a le graphisme, et c'est sûr qu'au niveau communication visuelle, déjà, tout est vraiment hyper présent et hyper léché, réfléchi. Mais moi, ce qui m'intéresse dans un podcast d'écriture, c'est qu'à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui doit prendre la plume et constituer ce contenu. Donc, il y a de l'écriture.
Oui.
Comment ça se passe ? Parce que je te vois à l'aise, bien sûr, tu es en école de graphisme, communication, mm-hmm, tu présentes ton TFE, donc je le vois là, Sarah, dans ce monde-là, du design, de l'esthétique,
ouais,
du visuel, et puis je me dis, alors Sarah, qui écrit ? Et là, j'ai envie d'aller avec toi, Sarah qui écrit, elle a découvert qu'elle écrivait à ce moment-là, ou elle a découvert qu'elle écrivait déjà bien avant, c'est quoi toi et l'écriture maintenant ?
Mais j'ai toujours aimé écrire, en fait, et les mots sont toujours venus assez facilement. Dès la primaire, les travaux, les élocutions, etc., c'est quelque chose qui ne me posait pas de soucis. À d'autres de mes camarades, c'était plus compliqué de rédiger, etc.
Mm-hmm.
Donc voilà, ça a toujours été comme ça. Pour revenir un peu en arrière aussi, j'ai grandi avec une maman passionnée de livres, de lectures, avec une énorme bibliothèque à la maison.
Mm-hmm.
Et ma mère m'a toujours dit, je ne te dirai jamais non pour un livre. Donc mm-hmm, les jouets, etc., c'était un peu, voilà, on négocie un petit peu, mais les livres, jamais.
Wow.
Donc, j'ai vraiment été depuis toute petite entourée de livres.
Mm-hmm.
J'ai toujours vu ma mère avec plusieurs livres sur la table de nuit, sur la table du salon.
Mm-hmm.
Voilà, vraiment, j'ai baigné là-dedans toute ma vie. Et puis, vraiment, je me suis rendu compte que j'aimais bien écrire, toujours pendant mes études, parce que quand il fallait faire des travaux, etc., j'aimais bien. Quand il y avait des travaux de groupe et qu'il fallait faire des dossiers, à la fin, c'est moi qui les écrivais.
C'était toi, voilà.
C'était moi tout le temps, toujours, tout le temps. Et lors de mes études de graphisme, il y avait quand même toute la partie recherche de concepts, etc., qu'il fallait toujours expliquer dans les dossiers de recherche, comme on appelait ça. Et pareil, quand c'était en groupe, c'est moi qui les écrivais. Et quand c'était toute seule, c'est quelque chose qui ne me posait pas problème, et même j'aimais bien.
Donc il y a l'utilité, l'efficacité, mais j'entends aussi le plaisir, parce qu'on peut être doué pour quelque chose et pas spécialement aimer,
c'est ça,
mais t'avais quand même ce plaisir de jouer avec les mots,
exactement, etc. Oui, c'est quelque chose que j'aimais bien, et je m'en suis rendu compte vraiment durant mes études de graphisme. Et puis quand j'ai écrit mon mémoire, donc là on est vraiment sur l'écriture,
du lourd
pareil, en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce mémoire, alors que c'était un peu la bête noire du
dernier
master.
Oui, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a vraiment du plaisir, parce que je n'entends pas souvent quelqu'un qui me dit j'ai pris du plaisir à rédiger mon mémoire.
Mais oui, non, si on enlève le stress de la deadline et les deux dernières semaines où on ajoute carrément un chapitre
et on pleure,
j'ai apprécié travailler là-dessus. Et puis quand j'ai pensé à qu'est-ce que je veux faire de Nicole après. Au départ, il y avait plutôt l'idée du magazine papier.
Ouais.
Et donc, là, l'idée d'article est venue, etc. Et là, je me suis vraiment mise, là, je vais écrire un article, pas du tout pour l'école. Et j'ai découvert aussi que j'adorais ça aussi. Donc, c'est vrai que c'est pas mon métier à la base, mais j'y prends beaucoup de plaisir. Je suis peut-être un petit peu plus lente à écrire que d'autres, mais c'est quelque chose que j'adore. Et je nourris évidemment toute cette réflexion avec énormément de bouquins, de reportages, etc.
Ouais.
Mais beaucoup de lectures.
Mais je l'entends parce que voilà, tu me présentes Sarah depuis toute petite avec la grande bibliothèque, ta maman. Mais en fait, j'entends le rapport qui est évidemment très très évident quand on interviewe des personnes qui écrivent, c'est qu'avant avant l'écriture, je me reprends, il y a la lecture très souvent, c'est pas étonnant, hein. Que tout ça soit aussi fluide et aisé, voire même la notion plaisir, c'est que d'abord on a été baigné là-dedans, hein. c'est pas c'est pas anodin, quoi. Et donc, ici, évidemment, je sens que ça peut être nourri, même maintenant. Je vois ta bibliothèque, j'arrive chez toi, parce qu'on est chez toi. C'est en même temps ton chez-toi, ton lieu de travail principal, ouais, etc. Donc, je suis vraiment dans ton petit univers. Et évidemment, quand je vois ta bibliothèque... Si quelqu'un doute encore du fait que Sarah est vraiment hyper référencée, inspirée, nourrie, allez voir sa bibliothèque. Les deux sont liés, évidemment. Ce que j'entends aussi, c'est que j'ai découvert que j'aimais ça. Au moment où tu prends la plume pour ton premier article, mm-hmm, tes premiers articles, c'est pas la littérature. Et à mon sens, c'est pas du journalisme. Et ce qui est génial, moi je trouve ça génial, c'est que tu traces ta voix avec ta voix et ta voix, mmh, avec ça c'est moi qui parle pour Nicole, parce que j'ai eu l'occasion de découvrir ton livre et je vois qu'à un moment donné c'est très clair et on sent que c'est très assumé, je ne suis pas journaliste, mmh, ou je ne suis pas psychologue ou sexologue, et quand on le lit vraiment comme quelque chose d'affirmé, d'assumé, et en même temps c'est très bien de se dire moi je ne suis pas ça, je le sais. Ouais. Je ne cherche pas à être ça. Je l'ai reçu comme ça. Est-ce que c'est juste ou pas?
Ouais. Ben, je crois que c'est une façon de me sortir du syndrome de l'imposteur, voilà, et de répondre directement aux éventuelles questions sur la légitimité, parce qu'évidemment, j'y fais face, mmh, aussi.
Bien sûr.
Et je peux comprendre ce questionnement. Donc, c'est vrai que je me suis dit, commencer ce livre par dire bah, « Non, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas sexologue. » Et à aucun moment, d'ailleurs, je me revendique comme telle, vraiment. Mais par contre, je suis une femme, je vis dans une société et, mm-hmm, j'observe ce qui se passe autour de moi. Et j'ai simplement décidé d'en parler,
ouais,
avec des lectures et des réflexions qui sont nourries par des discussions.
Ça ne vient
par
pas non plus de je prends le pouls autour de moi, tu te documentes,
voilà,
et quand bien même tu proposes ta voix subjective, elle a le droit d'exister comme les
exactement
autres, en
fait. Et elle a le droit aussi d'avoir des contradictions,
ouais,
où justement l'idée de Nicole aussi c'est de pouvoir en discuter et d'ouvrir, mm-hmm, au débat. Je ne viens pas avec une vérité absolue, je n'ai pas découvert le feu et j'en suis bien consciente. Voilà, c'est vraiment... Je me questionne, c'est un, mm-hmm, peu comme la discussion qu'on a entre amis, parce,
voilà,
qu'alors si on est professionnel dans rien, on peut parler de rien finalement, mm-hmm, donc si on est expert dans rien, je dirais, on peut parler de rien, et là l'idée c'est ça, moi je pense ça parce que j'ai constaté ça, j'ai lu ça, on, mm-hmm, m'a dit ça, j'ai réfléchi à ça, maintenant pourquoi pas penser le contraire et en discuter, quoi.
Et du coup, c'est marrant parce que tu fais la référence du groupe d'amis, mm-hmm, le souper où on papote, etc. Et il n'y a pas de hasard, à mon avis, ce livre qui est la continuité du projet Nicole, mais ça s'appelle Dîner avec Nicole.
Oui.
Donc moi, du coup, évidemment, je vous vois là autour de la table en train de discuter. Et évidemment, ça peut amener peut-être même des clivages, des contradictions, etc. Mais j'entends le dialogue, la,
oui,
discussion. Et je trouve que c'est très cohérent par rapport à ce que tu proposes, notamment avec l'objet livre. Moi, j'entends aussi, j'apporte ma voix, mm-hmm, je me renseigne, je suis une femme de mon temps, mm-hmm, avec des questionnements à 100% de ton époque. Donc, moi, je te soumets cette réflexion. Tu n'es pas journaliste, tu n'es pas sexologue, et de te dire autrice. Quand je te l'envoie, ça te fait quoi?
Je suis sans voix. Non, oui, d'une façon, je suis autrice, en tout cas, de ce livre. Mm-hmm. Voilà, maintenant, j'ai envie de dire, je ne suis pas que ça.
C'est ça.
Et je ne le suis pas non plus à 100%, quoi.
Mm-hmm.
Donc voilà,
je
suis pas hyper à l'aise avec ce mot, je t'avoue, voilà.
Et comment t'as envie de choisir tes mots, toi? Alors, ça qui est intéressant aussi, parce qu'en coaching, je le dis souvent des plumes aussi, alors on a envie de s'assumer, se revendiquer autrice, même si parfois c'est quelque chose, le syndrome de l'imposteur, mm-hmm, la légitimité, beaucoup de travail à faire parfois, mais d'autres personnes me disent, mais moi je suis pas ça, ou je suis pas que ça. Et j'envoie souvent ce conseil, mais ouais, si tu aimes les mots, tu peux aussi choisir tes mots et créer cette étiquette que t'as envie toi-même de t'apposer, ou justement faire sauter les étiquettes. Donc... moi, je te propose autrice, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te paraît plus juste par rapport à qui tu es, ce que tu fais avec les mots, notamment, essentiellement?
Ouais. Mais là, tu soulèves vraiment un point, et je pense que beaucoup d'entrepreneurs se retrouveront dans ce que je vais dire. C'est toujours compliqué de parler de son travail quand on fait un travail qui sort un petit peu des conventions, on va dire.
On pourra en parler après.
Voilà. Quand on n'est pas médecin ou dentiste,
ouais,
ou même graphiste, parce que c'était
aussi,
plus simple pour moi de dire que je suis graphiste.
Facile, ouais,
voilà.
Voilà.
Exactement. Donc, voilà. Et c'est vrai que quand je dois parler de mon boulot, en fait, je ne dis pas je suis quelque chose, j'explique, mmh, ce que c'est,
ouais,
et voilà, moi j'ai lancé Nicole, c'est une communauté, c'est un média, Et ben voilà, à travers Nicole, j'écris des articles, j'écris un livre, j'organise des événements. Je le présente plutôt comme ça.
C'est très intéressant parce que tu amènes quelque chose déjà auquel j'ai été confrontée très vite en proposant « Je ne suis pas que bibliothérapeute » déjà pour expliquer, puis coach et puis d'autres choses, podcasteuse maintenant. C'est qu'on entend le slash, donc quel côté entrepreneur, slasheuse. On entend aussi qu'il y a des côtés très créatifs, que ce soit au niveau du livre, mais aussi au niveau de comment je développe mon concept. Moi, je vois Nicole comme un concept, quoi, tu vois. Et évidemment, c'est pas en un seul mot que ça va être résolu. Est-ce que tu peux te dire que dans un de ces slash qui te constitue dans ton identité multiple, très intéressante, dans un de ces slash, le côté autrice, dans le côté j'ai un propos, je fais porter ma voix. Autrice, ça peut être n'importe quoi. Autrice, ça peut être j'ai rédigé un roman, j'ai rédigé des articles. Une podcasteuse peut être autrice aussi, etc. Est-ce que c'est un mot qui te dit c'est vraiment pas pour moi? Ou c'est non, mais il n'y a pas que ça, comme tu disais, mais ça en fait quand même un petit peu partie, ou de plus en plus. C'est une question ouverte. Hein. Je ne veux pas t'amener dans tes autrices, c'est pas le but, mais vraiment nourrir cette discussion ensemble. Quoi.
Oui, en fait, je pense que je ne me sens pas du tout légitime en fait, qu'on m'appelle autrice, quoi. Et donc de me donner cette identité. Voilà.
Je crois qu'il a fallu
du temps pour amener le projet, pouvoir le porter, savoir en parler et arriver à en parler et à faire face aussi aux personnes qui ne comprennent pas très bien ce qu'on fait.
Légitimité.
Voilà. Là, après 2 ans, maintenant, je sais répondre à ça et je n'ai plus peur de ça j'assume et je suis fière de mon projet et de le porter. Mais voilà, le terme autrice, j'y suis pas encore.
Mais j'aime bien poser cette question-là parce que dans le podcast, j'interviewe vraiment tout type d'auteurs, de créateurs, de créatifs, quel qu'ils soient. Même dans l'entrepreneuriat, c'est une forme de créativité pour moi, ça c'est évident. Je pose la question dans cette idée de réflexion parce que je sais que ceux qui sont en train d'écouter et celles derrière leurs écouteurs ont toutes, j'en suis sûre, ce syndrome de l'imposteur. Il y en a qui écoutent le podcast en disant « Oui, moi, j'aimerais bien écrire, mais en fait, c'est pas pour moi. » Mais j'écoute quand même le podcast, on sait jamais. Quelqu'un qui écrit, qui est autrice, auteur, écrivain, et qui est même assumé, mais même l'auteur assumé, publié, il a encore son syndrome. Donc, je te remercie pour ta transparence parce que, déjà, oser dire dans le micro, moi, je me sens pas encore légitime. Alors que quelqu'un d'extérieur, j'en suis sûre, te voit ton lancement, voit que ton livre est arrivé dans les mains de plusieurs personnes, il a envie de se dire « Mais moi, je veux faire comme elle !» Et je le sais, j'ai déjà entendu des plumes qui m'ont dit « Ah, tu vas interviewer Sarah, c'est génial, t'as vu comment elle a fait sa com et comment elle a mis son livre dans les mains des gens !» Donc tu vois, pour envoyer d'autres contrepoints de ce qu'on peut aussi renvoyer aux autres dans une démarche créative, voilà. Mais en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est l'écriture, elle est présente, j'entends le plaisir. Et du coup, on va rentrer un peu plus en détail. Comment tu écris ce livre? D'où vient le contenu? Est-ce qu'il y a des choses qui venaient déjà dans ton blog? Est-ce qu'il y a eu de la nouveauté? Est-ce que tu t'es dit, il faut que je réécrive? Là, j'ai envie d'être la petite souris dans les coulisses de la préparation du livre, vraiment. Quoi.
Alors, l'idée de livre, elle est là depuis le début du blog, avec cette envie de sortir finalement tous les articles du blog sur un objet papier. Moi, ça reste mon dada, c'est vraiment une passion. Les livres, les magazines, l'objet papier, je suis du genre à partir un week-end d'Amsterdam et à revenir avec des sacs de livres parce qu'il y a des magnifiques librairies là-bas. Et aller là que pour ça d'ailleurs et traîner mon papa avec moi. Voilà, c'est vraiment véridique. Donc, l'objet papier était super important pour moi. Alors, le magazine, ça reste le projet sur le long terme, bien évidemment. Mais donc, du coup, je me suis dit, commencer par le livre. Je trouve que c'est une belle manière de sortir ces articles et de les mettre dans les mains de plus de personnes aussi. Parce que le livre touche une autre cible que le blog.
Tout à fait. Il y a des gens qui ne sont pas volontairement sur les réseaux sociaux.
Voilà, exactement. Ouais. Et c'était aussi l'occasion d'ajouter une plus-value qui est le travail photographique. Donc, pour ça, j'ai travaillé avec Fabio Amato, qui est un photographe liégeois, qui se trouve être le compagnon de ma cousine avec qui voilà, je m'entends très très bien et surtout j'adore son travail.
C'est très réussi, hein, franchement.
Il est très fort.
Ça rend bien.
Il a vraiment un œil particulier, on sent sa patte et il a vraiment une créativité et on se connaît très bien, donc évidemment ça aide. Et en fait, ça a été beaucoup de réunions pour conceptualiser chaque article. Donc il y a vraiment... une farde avec tous les articles imprimés et chaque article on en discutait.
Ouais.
C'est des heures de discussion pour se dire ok, comment on conceptualise, parce que je voulais des photos qui soient très conceptuelles. Finalement, c'est assumé, il n'y a pas vraiment de corps.
C'est presque artistique. Ou, hein. Pour moi, tu as mis de l'artistique et on voit du coup la formation design derrière.
Ouais.
Il y a vraiment un côté ultra artistique et qui vient vraiment appuyer, soutenir le discours du texte, quoi.
Voilà.
Donc oui, t'as vraiment créé un objet hybride.
C'est ça. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'au tout début, j'ai dit à Fabio, écoute, j'aimerais bien que quand on réfléchit à chaque article, on ne soit pas du tout bloqué par quelconque contrainte. On pense comme si on pouvait tout faire, aller partout.
Mm-hmm.
Et finalement, en gardant ça en tête, on s'est retrouvé à faire la majorité des photos chez moi.
Ouais.
Avec des objets du quotidien,
super.
Beaucoup d'objets de la cuisine.
On voit,
d'ailleurs.
Moi, justement, tu parles de la cuisine, j'ai adoré ces photos de cuisine.
Ben voilà.
Qui disent tellement de choses de la vie d'une femme, quoi.
C'est ça.
Aujourd'hui.
Et c'est avec plusieurs mois, parce que bon, ça a été plusieurs mois de travail, et c'est à la fin où je me suis fait cette réflexion et j'ai dit à Fabio, je dis c'est fou parce qu'on s'était dit pas de contraintes et on a finalement tout fait chez moi.
Ouais.
Et la majorité avec des objets de la cuisine, sans penser, puisque le concept du dîner au tout début du travail, je ne l'avais pas.
Alors là, tu m'amènes une réponse à une question que je voulais te poser justement, et c'est génial parce que je me suis dit, mais quelle cohérence interne. Voilà, en tant que coach, quel que soit le type d'objet d'écriture, même objet hybride, il y a d'autres projets d'objets hybrides que je chapeaute notamment, etc. Mais il y a vraiment cette idée de cohérence interne. Et même en tant qu'entrepreneur, même quand tu es slasheuse, la cohérence, elle est où ? Que tu sois pâtissière et en même temps journaliste, s'il y a une cohérence, tout va bien.
Mm-hmm.
Et donc, c'est vraiment un point d'attention. Et du coup, en analysant ton... Et en le savourant avant d'analyser ton livre, je voyais ça. Je dis, c'est génial. Dîner avec Nicole. La construction, la structuration des chapitres. Hein, voilà, entrée, plat, dessert, etc. On sent la réflexion. Mais j'avais cette question par rapport aux photos. C'est-à-dire, c'est génial. C'est effectivement des objets du quotidien. Principalement la cuisine, du repas, la nourriture, etc.
Ouais.
Et c'était par magie alors.
Oui, en fait, les premiers mois, j'avais pas ce fil conducteur. C'est quelque chose, pendant un moment, je me suis dit, il me faut un fil conducteur, j'ai pas envie de uniquement, on va dire, mettre les articles, et même comment est-ce que je classe les articles ou pas. Il y a vraiment toute cette réflexion, et je n'avais pas ce fil conducteur. Et on avait déjà commencé à shooter certaines photos. Et c'est venu, je dirais, à la moitié du travail photographique où j'ai eu cette idée. Et je me suis dit, ok, mais là, comme si tout d'un coup s'illuminait, tout s'aligne, tout s'imbrique. Je me dis, ok, c'est ça, c'est génial. Et je n'ai pas fait le rapprochement avec les photos à ce moment-là. Je me suis juste dit, là, j'ai la cohérence pour la structure du livre. Il y a un champ lexical qui s'ouvre à moi qui est juste exceptionnel et j'ai hâte de tout explorer, vraiment. Et alors, j'aimais bien aussi cette... la signification du dîner, comme tu l'as dit tout à l'heure, on voit l'idée du dîner entre potes, on parle de sexualité, mais en choisissant le mot dîner, on voit aussi le dîner de famille.
Ouais.
Où
on
ne parle absolument pas de sexualité, évidemment.
Très
et donc, il y avait aussi ce paradoxe de dîner avec Nicole, tremper le biscuit.
Ouais.
C'est paradoxal, quoi, et même contradictoire.
Et ça vient soulever deux aspects de la sexualité et du tabou, quoi.
C'est ça.
Peut-être plus désinhibé avec des potes un soir avec un verre de vin et même sans. Et le souper de famille, où là, en fait,
Oui, on est plus sur des blagues sexistes.
Exactement, et ça permet d'aller explorer d'autres choses,
c'est
effectivement.
Ça.
En tout cas, c'est très intéressant parce que, voilà, le mot a été posé. À mon sens, on a vraiment cet objet hybride qui va à la fois dans l'esthétique, dans le visuel, et qui est cohérent parce que c'est Sarah qui vient de cet univers-là aussi. On a l'objet hybride parce que j'entends aussi, moi, cette notion de personnes qui, tu vois, autrices plutôt essayistes, quoi. Je vois Mouna Chollet, hein, notamment dans ta bibliothèque, parmi d'autres, hein, Victoire Troyon, etc.
Ouais.
Mais il y a aussi quelque chose qui a été aussi amené par les podcasteuses, par des militantes qui ne sont ni autrices, ni sexologues, ni journalistes, mais voilà, qui se sont emparées d'une voie d'expression, livre, podcast ou autre. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'elles y vont, sans s'excuser, tu t'inscris un peu là-dedans, du coup, je t'envoie ça.
Merci, je prends.
Parce que je trouve qu'on a tout notre droit à la parole et à l'expression, et c'est notamment aussi essentiellement le propos de Nicole, hein, quand on gratte vraiment en filigrane. Et je me dis, mais alors, il y a ce côté vraiment essayiste, c'est-à-dire que c'est pas la littérature, c'est pas du journalisme, d'investigation, mais à ce côté, je m'engage, c'est engagé, on peut le dire ou pas ?
Oui,
c'est engagé.
C'est engagé.
Simplement, tu prends le sommaire, tu vois les titres, les chapitres, mm-hmm. Je n'ai même pas besoin d'aller fouiller dans les articles, c'est engagé. Parce que, est-ce que tu peux résumer en deux, trois mots les thématiques essentielles pour ceux qui n'ont peut-être pas encore découvert, et celles qui n'ont pas encore découvert ton livre ?
Alors, il y a notamment un article sur la charge mentale et la charge sexuelle, un article sur la publicité et l'hypersexualisation dans la publicité, mm-hmm. mais aussi, et donc bah, évidemment... on est plutôt sur la partie dessert, un article sur la pénétration et sa réelle place dans le rapport sexuel,
ouais, ouais, ouais.
Sur le clitoris aussi, mm-hmm. et toutes les conséquences de l'ignorance.
Donc là, tu enfonces les portes.
Directement. voilà, c'est un mm-hmm. peu les... Il y a aussi sur le sexisme ordinaire. Mm-hmm. Voilà, on touche des thématiques qui sont... soit vraiment qui parle de sexualité et de rapport sexuel, ou aussi de tout ce qui est lié au corps et à, finalement à la place, la condition et la voix de la femme.
Donc en fait, moi c'est pour ça que je t'envoie cette notion d'essayiste, qui est la mienne, hein. Peut-être que quelqu'un dira pas du tout ça, mais il y a cette notion de propos engagé, assumé, qui n'est absolument pas à 100% objectif. Bien que fouiller, mm-hmm. documenter, etc. Mais vraiment, je m'inscris dans cette ligne. D'ailleurs, c'est féministe. Il y a même la question de quel type de féministe es-tu. Enfin, je ne sais plus comment c'était vraiment intitulé.
Ouais, ouais.
Mais voilà, donc on est quand même là-dedans. On baigne là-dedans.
Ouais.
Est-ce que tu as déjà reçu des retours? Et là, je vais vraiment me concentrer sur le livre. Parce mm-hmm. qu'évidemment, Nicole existe depuis 2 ans.
Ouais.
Si on doit compiler tous les retours que tu as eu depuis 2 ans, voilà, ça va être... ça prend plus de temps. Pourquoi pas? Mais là, le livre, il est sorti. Tu fais ton lancement, c'est officiel, il arrive dans les librairies, commandes, etc. en ligne. Est-ce que tu as déjà eu des retours de ce contenu qui est arrivé dans les mains, le cœur de lecteurs et lectrices?
Oui, oui, et je pense à 2 retours qui sont assez opposés, mais intéressants, et notamment celui d'une jeune fille de 14 ans
mm-hmm.
qui... à la base n'est pas la cible du livre parce que je trouve que j'utilise un vocabulaire parfois peut-être un petit peu trop brut, on va dire,
ouais,
ou trop cru,
voilà, ouais,
pour,
ouais.
Mais bon, après, chacun est à même de l'entendre ou pas. Et cette jeune fille de 14 ans a fait aussi un peu son éducation sexuelle et son entrée dans sa sexualité avec ce livre, et mmh. elle l'a adoré, je répète ce qu'elle m'a dit. Et à l'inverse, on va dire, enfin non, même pas à l'inverse, mais dans un autre registre, un homme de l'âge de mon papa qui finalement a découvert aussi ce que les femmes peuvent penser, ressentir et vivre au travers du livre. Donc c'est un peu les deux qui n'étaient pas la cible à la base et finalement qui trouvent quand même leur compte, quoi.
À fond, du coup c'est des heureuses surprises de dire j'ai aussi touché, c'était pas volontaire, mais c'est là aussi que ton livre il vit sa propre vie, là il te mm-hmm. dépasse un peu, mais ça c'est ça quand on publie un livre, d'avoir touché aussi d'autres types de publics, quoi.
C'est ça.
Et j'entends vraiment les réactions qui doivent à mon avis te convaincre encore plus que oui, il y avait quelque chose à faire
mm-hmm.
pour un public que tu avais certainement en tête, mais aussi... 14 ans, c'est pas anodin, hein, finalement.
Oui.
C'est ça où elles vont avoir le porno ou les discours
c'est
des
ça.
Gamins dans la cour. Donc finalement, même si c'est jeune, a priori, vu le registre de langage que tu utilises, je pense qu'elles ont déjà probablement accès à pire, vachement pire que ce que tu proposes, qui est certainement la bonne tonalité. Et par rapport à l'écriture pure, je reviens encore un petit peu sur ça, mais je me dis, quel a été le déclic? Entre, je sais que depuis le début, c'est prévu, j'ai envie de le faire, mais c'est quoi l'impulsion? Parce que là, c'est mon côté coach qui va vouloir remettre tout ça dans le réel, dans l'empirique, on fait, hein, on retrousse ses manches, on y va. Quel a été le déclic pour te dire, c'est maintenant qu'on lance l'opération Dîner avec Nicole?
Alors l'impulsion, elle vient une journée où vraiment je passe une journée... de merde, on va dire les choses. Je suis au bout de ma vie et je me dis vraiment qu'est-ce que je fais de ma vie, mais qu'est-ce que voilà, Nicole s'est lancée, mais j'arrive à un moment où il faut un nouveau chapitre, un nouveau step du truc, et je me dis ok, je crois que là c'est le moment pour le livre, et je contacte en fait la seule personne qui me rattache à l'édition, qui est une ancienne prof de mon master, qui est Primaëlle Verteneuil,
qui était
ma prof de gestion à l'édition, et on avait un cours d'écriture aussi avec elle. Mmh. Et donc, c'est la seule personne du monde de l'édition que je connais. Et je lui envoie un message, je dis voilà, est-ce qu'on peut s'appeler? J'ai quelques questions à vous poser, parce que je ne sais pas du tout par où commencer. Enfin, je n'ai aucune idée de quoi faire avec ces textes. Et je l'ai au téléphone le lendemain et elle me dit bah ok super, j'adore le projet, j'adore, viens, je t'aide et on se lance tous les deux quoi.
Comme quoi, une journée de merde, hein,
ah oui,
cash,
vraiment
se transformer en une belle impulsion.
Exactement, hein. Je me suis dit, bah, finalement, je suis bien contente d'avoir eu cette journée, parce que ça a vraiment été ça, la pulsion, et la, j'ai envie de dire, même la nouvelle rencontre avec Primaëlle, parce qu'on se connaissait prof-étudiante, et là, on a eu une autre relation, et une très belle relation, et je lui en suis... éternellement reconnaissante.
Oui, et d'ailleurs, on la voit dans les remerciements, ah, c'est pas anodin, hein, c'est le genre de personne qu'on remercie en premier lieu.
Ah oui,
c'est évidemment. Ouais. Et justement, j'entends qu'il y a du coup ce soutien de personnes compétentes, inspirées dans ce domaine-là. Est-ce que tu t'es sentie vraiment accompagnée à des moments clés ou régulièrement, ou est-ce que tu t'es sentie seule, vraiment seule, j'écris seule dans ce projet?
Non, j'ai vraiment été accompagnée par Primaëlle à chaque étape, tout le temps. Ça, je suis très très reconnaissante et vraiment hyper chanceuse. Pour toutes les étapes, elle était là à chaque fois, les questionnements et les relectures, voilà.
Oui, les relectures, j'imagine, c'est du taf, hein. Enfin, je te dis
exactement.
Ça parce que c'est du taf.
Hein. Oui, et pour tout, la partie graphisme, j'ai eu quelques rendez-vous avec un ancien prof aussi, qui était vraiment mon prof d'édition, on va dire, à Saint-Luc, qui m'a aussi aiguillée pour le lancement, parce que, enfin, le lancement, le début, on va dire, de la mise en page, parce que j'avais jamais mis en page autant de pages.
Ah oui, c'est un vrai travail.
Voilà, donc il y a vraiment...
très spécifique, hein.
C'est ça, et ça, je ne l'avais jamais fait à ce point-là. Ça me paraissait un gros morceau à mettre en page avec beaucoup de textes, beaucoup... Et ça a été un peu dur de trouver le choix des typos, tout ça. Et voilà, j'ai Monsieur Smith, donc Pierre Smith, qui m'a aidée aussi pour cette partie-là.
Chouette. Et j'entends des clics et je ris avec toi parce que vaut mieux en rire, hein, c'est cette journée-là.
Oui.
On s'en souvient d'une certaine manière, mais au final, on en rit toujours. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas anodin. J'entends souvent ça comme discours, moi-même, dans mon propre processus d'écriture. C'est vraiment dans un moment de down ou d'ambivalence ou de questionnement existentiel qu'il y a le truc, mais en fait, c'est maintenant, quoi. Je ne sais pas comment tu vis, mais moi, je le sens, j'entends ce discours-là. Ça vient des tripes, il y a un truc dans le corps qui se manifeste. Comment c'était pour toi, cette sensation de « bon sang, c'est maintenant
» Oui, mais c'est quelque chose qui est très présent chez moi. J'ai déjà une personnalité très entière où je suis à 100% ou à zéro. Donc, les moments de joie sont extrêmes et les moments un peu plus down sont extrêmes aussi. Et c'est quelque chose qui s'est amplifié depuis que je suis entrepreneur. C'est encore pire.
Les montagnes russes.
Oui, vraiment, vraiment. Mais j'apprends de plus en plus à apprivoiser ces moments-là aussi. Et les moments de down, comme on en parle, ces journées de merde, hein, on peut les appeler comme ça.
Oui, on les cache ici.
Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. De dire, ok, je suis triste, je vais accepter ma tristesse, mais qu'est-ce que je peux faire pour que demain ça aille mieux, quoi.
Ou
après-demain, mais limite, quoi. Et je fais un travail qui est une passion, et donc ça passe toujours aussi par mettre des choses en place pour Nicole, pour le boulot. Et là, c'était un moment aussi de... il fallait passer à une autre étape pour continuer, quoi. À ce que le projet puisse grandir et évoluer.
Et puis, c'est des moments, je pense aussi, où tu t'es amenée, malgré toi, à réévaluer un peu ce qu'il y a autour de toi. Et j'entends ton discours de dire, mais en fait, globalement, ma vie, mais puis aussi Nicole, qui fait beaucoup partie de ma vie, peut évoluer.
C'est
et
ça.
Là, tu réévalues tout. Donc, c'est là, tu parlais aussi tantôt de sortir out of the box. Mais je pense que même dans sa vie, on est créatif de se dire, c'est quoi la prochaine étape? On repense autrement, sous un autre angle. Et donc, voilà, Nicole est là.
Oui, et ça, c'est constamment... Je ne sais pas si c'est vraiment lié au fait d'être entrepreneur ou d'avoir son propre projet, mais c'est, je dirais même tous les jours, réfléchir à c'est quoi après, qu'est-ce que je peux faire. C'est vraiment cette réflexion-là qui est constante. Oui, repenser tout le temps.
Ce que j'entends, c'est que je t'ennuie, je te titille depuis tout à l'heure avec autrice, essayiste, et je viens chercher en tout cas provoquer un échange, mais en fait, il y a autre chose qui m'arrive en tête, c'est vraiment cette notion de créative. Au sens large. Et peut-être que tous tes slash, du coup, peuvent être contenus dans cette appellation qui est créativité. Et c'est quelque chose que je chéris, à laquelle j'invite les personnes à se reconnecter, jeunes, moins jeunes, parce que créativité, elle est dans tout. Je l'entends dans ta démarche entrepreneuriale, Je la vois même comment tu as envisagé l'objet avec ton ami photographe, les accompagnants autour de toi. Du coup, cette créativité, c'est peut-être ça en fait. Je te sens très créative, quelles que soient les émotions, les états d'esprit, quel que soit le tiroir que tu ouvres dans ta grande armoire de Nicole, que ce soit voilà, le blog, parce que tu as aussi une boutique en ligne, je vois qu'il y a plein de choses. C'est un concept, quoi. Donc la créativité, elle doit être là. Elle vient facilement, tu dois accueillir des moments où tu te dis, bon là... je dois être créative, tu te dis comme ça, ou ça vient un peu par magie, par révélation? Comment tu la vis, cette créativité, globalement?
C'est constant, en fait. C'est tout le temps. Parfois, il faut un peu que je la freine parce que trop de créativité, en fait, ça bloque aussi d'une certaine façon, parce que pour faire des tâches du quotidien, et même pour finalement la mettre en pratique, à un moment, il faut arrêter de réfléchir, et il faut passer à l'action, il faut bosser, quoi. Donc j'essaye de la canaliser un petit peu en m'organisant, en me laissant des planches, des tranches de journée pour vraiment réfléchir. Parce que je pense que quand on est pris aussi dans le quotidien, et voilà, les choses qu'on doit faire, il faut poster sur Instagram, il faut faire la com, il faut... voilà. On n'a plus le temps de réfléchir à qu'est-ce qui va faire que mon entreprise va évoluer, comment est-ce que je peux la faire évoluer. Nicole est encore en train de se construire et de grandir, c'est que le début, donc il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir. Et parfois, de prendre une soirée pour discuter avec quelqu'un qui est dans ce milieu-là aussi, ou mon papa ou des amis pour brainstormer sur tout ça. Alors, mon grand dada, ce sont les feuilles A3.
Ah.
J'écris tout sur des feuilles A3 qui sont sur mon frigo.
C'est pas un truc de créatif, ça.
Et puis c'est tout posé sur des feuilles A3, me faire un grand nuage de mots et de flèches, etc., pour ressortir des idées, et des idées sur le long terme, parce que je pense que en tant que jeune entrepreneur et jeune entreprise, il faut toujours savoir où je veux aller pour mettre déjà des actions en place maintenant. Il faut pour que ça soit cohérent, il faut savoir où je veux mener ça. Et ça, ça change aussi, parfois.
Oui, parce que tout change autour de nous.
Tout change.
Même le Covid nous a bien rappelé que
exactement. Et puis les envies, et puis on tente de nouvelles choses. Et
puis des rencontres aussi.
Exactement.
Parce que ce que tu amènes pour Nicole, entreprise, et en fait, l'objet, je sors un livre, etc., j'entends des choses assez similaires, quoi. C'est-à-dire que ça n'a absolument rien à voir a priori de gérer une entreprise, quelle qu'elle soit, et de faire un livre, mais j'entends poser un objectif, éventuellement une deadline ou quoi, j'entends poser un cadre, et après toute la créativité se déploie dans ce cadre, parce que je peux tellement bien le concevoir moi-même étant dans cette démarche-là, de ok, la créativité ça peut partir dans tous les sens, on se canalise, on met un cadre, ou un cadre temporel, ça ce sera dans un an, dans deux
ans.
C'est ça, Et je reviens au livre, parce que tu l'as évoqué aussi, c'est quand tu as trouvé à la moitié du chemin, ok, les photos ça va être ça, et ce cadre de un dîner, le champ lexical, tout se met en place, et la créativité peut fleurir et se déployer.
C'est ça.
J'entends vraiment ces deux discours qui pour moi sont assez similaires, quoi. Et je le sens, t'es créative, ton concept il se développe à plein de niveaux, mais à ce côté, en fait, c'est le même process qui se répète, je ne sais pas si je me trompe. Mais...
Non, si, c'est vrai, et c'est vrai que aussi bien ici pour le concept du dîner que dans les projets à venir ici pour Nicole, et c'est fou que tu me poses ces questions parce que je viens de passer un début de semaine vraiment à réajuster, réévaluer tout et ressortir plein de nouvelles feuilles A3 avec un nouvel objectif, voilà, tout un peu...
Offrir des feuilles A3 à Sarah.
Voilà. Et finalement, j'ai l'impression, ça m'est arrivé pour le livre et ça m'est arrivé ici il y a deux jours, de dire, ok, en fait, quand j'ai l'idée du dîner, mais finalement, tout est cohérent avant et tout s'imbrique bien. C'était ça, la bonne idée, c'était ça, c'était là où je devais arriver, quoi. Et finalement, en fait, les photos, ça fonctionne bien avec le concept, les articles, le champ lexical, tout. Et je crois que c'est là où la créativité aussi entre en jeu, le fait d'avoir mis toutes ces petites choses en place avant. Et puis de réfléchir, rien à faire, plus une réflexion plus de business, etc.
Bien sûr,
parce qu'il en faut une aussi. Et quand on arrive à allier la partie business et la partie créative et qu'il y a une cohérence dans le projet, que ce soit le livre ou le projet de Nicole en soi, là je me dis, ok, donc ce que j'ai fait comme choix avant, c'est cohérent, quoi.
C'est ça. Et ça te rassure, en fait, de dire je suis toujours dans la bonne direction.
C'est ça.
Même s'il y a des petits allers-retours, des
sacinus,
mais je suis dans la bonne direction. C'est super intéressant. Je ne doute pas que quoi que tu lances après restera dans cette cohérence. Est-ce que tu vois encore l'écriture comme faisant partie de l'ADN de Nicole?
Oui, complètement. Et d'ailleurs, il y a un gros changement ici, début d'année, qui a. qui a eu lieu, c'est que je commence à travailler avec des rédactrices qui écrivent aussi pour le blog. Ça ajoute vraiment une richesse dans le ton, dans le propos et dans les sujets abordés et dans les opinions aussi. Ouais.
Donc, la cohérence à nouveau du dîner à plusieurs voix.
Exactement.
Tout va bien.
Tout va bien.
Tout évolue toujours bien. Par rapport à un dîner avec Nicole, est-ce que tu as conscientisé que tu avais éventuellement un rituel d'écriture, un rituel de travail, parce qu'on entend aussi beaucoup le travail que c'est de préparer un livre, que ce soit le fond ou la forme. Est-ce que tu as identifié des moments où tu étais vraiment bonne et bien dans ton élément, où là ça va, il n'y a plus de stress, je suis dans mon bon rituel, je fais bien les choses? Est-ce qu'il y en a eu un ou pas?
Non, jamais. Pour le livre, en plus, c'était la première fois que je me retrouvais confrontée à ce type de projet. Et donc, non, en fait, il n'y a vraiment pas eu de rituel. Et je me suis retrouvée les deux dernières semaines avant la deadline, je me suis enfermée chez moi, je crois que je ne suis pas sortie.
C'était ça le rituel.
Voilà, et je sais que, comme je te le disais tout à l'heure, quand je suis dans un truc, j'y suis à 100%. Mm-hmm. Et c'est pour ça aussi que c'est compliqué parfois d'être sur plusieurs fronts à la fois. J'aime fonctionner sur un projet à 100%, hop, on arrive au bout, puis on passe à un autre. Pour le livre, ça a été le cas, de toute façon c'était obligé, c'était la priorité, donc il fallait terminer le livre pour telle date, et tout le reste passait au second, voire ne passait pas en fait. Et donc ça a été la dernière semaine où tout s'est joué, toute la mise en page, la lecture, et donc là c'était vraiment, je savais que je ne sortirais pas de chez moi tant que c'était pas fini.
T'as pas
et donc
le choix.
S'il fallait bosser la nuit, le matin, l'après, ben voilà, j'organisais ma journée comme je le voulais, mais...
Donc tu fais partie de ces créatifs ou ces auteurs qui se mettent bien à la pression de la deadline. J'en fais partie, hein, donc, et d'ailleurs là j'apprends beaucoup d'autobienveillance vis-à-vis de moi, parce que je vois ce travail de la lenteur qui est aussi parfois nécessaire, mais il y a des personnalités, il y a des profils créatifs où c'est quand il faut donner à fond, que non seulement tu donnes à fond, mais je te le dis parce que je pense que tu n'oseras pas lire toi-même, mais que tu donnes super bien à fond. Avec cette idée de punaise, il va falloir délivrer quelque chose, là je n'ai pas le choix. Tu l'as ressenti quand même comme je fais du bien, je fais du bon, je fais du très bon ou
Non, honnêtement, il me fallait un regard extérieur voilà, pour me dire, et je savais que les personnes, et je le sais toujours, les personnes de qui je suis entourée n'ont pas peur de me dire, bah non, ça c'est bof quoi, ou ça c'est bien, ou ça c'est pro, voilà, et des personnes comme mon papa, j'y reviens parce que c'est vraiment mon tout dans toute ma vie, et je sais qu'il peut aussi me dire, bah ça c'est pas très pro, ou voilà, justement moi je suis pas du tout dans ce milieu là, donc voilà comment je le perçois.
C'est intéressant ça, regarde,
voilà,
complètement
exactement. Mais j'ai aussi, bah voilà, ici Primelle qui était avec moi dans tout ce projet, bah pareil, elle n'avait pas peur de me dire si ça n'allait pas, c'est normal aussi,
c'est d'accueillir logique. Ça, les commentaires, les retours,
ah oui j'adore ça, et même les commentaires négatifs, je préfère, enfin non, je vais pas dire que je préfère qu'on me dise négatif, mais j'aime bien le savoir quand il y en a, et je préfère qu'on me le dise plutôt qu'on arrondisse un petit peu les angles en trouvant c'est beau.
Moi tu sais que tu vas dans le bon,
voilà,
et tu sais clairement
ça.
Où tu peux aller travailler,
exactement,
ouais. Ce que j'entends en fait depuis tout à l'heure, c'est vraiment ce travail avec un super support système autour, quoi. C'est important pour toi d'évoluer comme ça?
Oui, très. Je pense qu'être entrepreneur, c'est être très, très seule quand même.
Ouais, et multicasquette.
Voilà, alors c'est pas quelque chose qui me pose problème. Je suis aussi bien, j'adore être entourée, mais j'aime aussi ma maman seule, et c'est pas du tout quelque chose qui me pose problème. Mais c'est vrai que j'ai quand même besoin de me sentir entourée, de savoir. J'ai pas besoin de beaucoup de monde, mais avec mon papa, c'est parfait. Et mes amis très proches, mais voilà, je sais que...
Une équipe de confiance.
Voilà, une équipe de confiance qui est là autour de moi, de ne pas me sentir toute seule. Parce qu'on parle, voilà, des moments où ça se passe bien, mais il y a aussi tous les gros downs, et il y en a.
Ouais.
Et ces moments-là, je sais que je peux appeler mon papa, lui dire « je peux tout arrêter », et qu'il débarque, il me fait manger, et je peux...
Alors justement, une question, que ce soit au niveau entrepreneurial, que ce soit au niveau créatif, au niveau même du projet spécifique de Un dîner avec Nicole, quand il y a un gros down justement, et là on a envie de tout plaquer, je pense à toutes les plumes que j'accompagne, je peux m'adresser les yeux fermés aux gens qui écoutent le podcast, je me parle à moi-même aussi, il y a ce moment existentiel d'ambivalence extrême où on a envie de tout jeter, ou de tout abandonner. Quels sont les conseils que tu pourrais donner aux plumes qui écoutent le podcast? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle serait une piste à ce moment-là, quoi, pour justement ne pas abandonner, parce que ça vaut la peine.
Mm-hmm. Ben, je pense qu'il faut accueillir ce sentiment. Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Maintenant, je commence à comprendre mon fonctionnement. Donc, je sais que, par exemple, le jour après la sortie du livre, je suis restée 3 jours en pleurant, en disant que j'annulais tout, qu'il ne sortait pas, que j'arrêtais tout, j'allais travailler ailleurs, quoi. Mm-hmm. Donc, j'ai décidé d'accepter ça. Ben, je suis triste, j'ai un gros down, je vais te passer 2 semaines enfermée chez moi, il va te sortir un énorme truc. Et c'est hyper paradoxal parce que tout était positif et donc je devrais sauter de joie. Et en fait, non, c'est tout le contraire. Mais je l'accueille. Ce jour-là, je suis juste triste et je n'ai pas peur de dire je suis triste. Mm-hmm. Je reste sur mon canapé et je suis triste.
Ouais.
Et ça ira mieux demain ou après-demain.
C'est un vrai baby blues, en fait.
Oui, j'ai eu un book blues, vraiment.
Un et book blues, voilà.
Les jours après, ça a vraiment été... Mm-hmm. Et c'est souvent, après un gros projet, en fait, le lendemain ou même le soir même, je suis triste, quoi.
T'as tout donné, même au niveau énergétique, au niveau émotionnel. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a un contre-coup.
C'est ça, oui, c'est un gros contre-coup. Et puis, c'est la fatigue, et puis... Je pense que les moments de repos, tu parlais tout à l'heure du self-care, sont hyper importants. Mmh. Et je commence à m'en rendre compte maintenant, après, ça fait à peu près un an que je suis vraiment full-time sur Nicole. Et en fait, je ne prends pas de week-end, je travaille tous les jours. Et si je ne travaille pas, je culpabilise. Et là, depuis début janvier, j'essaye d'un petit peu mieux cadrer et organiser ça, de me dire, je vais quand même essayer de prendre un jour sur la semaine où je ne travaille pas, ne plus répondre à mon téléphone après 18h. Voilà, et ça, ça joue aussi... Quand on est tout le temps là-dedans, qu'on ne déconnecte jamais, forcément, il y a des moments où on est fatigué, on n'a pas envie de travailler, c'est humain.
Ouais. Et puis après, pour revenir à tout ce qui est lié à la femme, à l'intime de la femme, à la sexualité, il y a aussi nos cycles, il y a aussi nos saisons, qu'elles soient hormonales, émotionnelles, les pics d'énergie et les pics de « c'est impossible », qui interviennent. Et justement, je voulais te poser cette question. Toi qui es justement fédératrice de ces contenus, qui parle de la femme, de ce que c'est être femme au niveau sexuel, au niveau intime, mais pas que. Hein. Quand tu parles de contraception, de charge mentale, ça dépasse amplement la simple, entre guillemets, sexualité. Quelle résonance ça crée en toi, Sarah, et plus Sarah derrière Nicole, en tant que jeune femme, parce qu'en plus tu es jeune, pourquoi tu es jeune jeune entrepreneur, c'est très positif. Oui. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est quelle résonance ça a en toi quand tu rédiges tes textes. Pour les rédiger, il faut amener le propos. Il y a la lecture et la relecture. Quand tu redécouvres ta plume et tu redécouvres ton propos, qu'est-ce que ça vient t'apprendre, te rappeler, te secouer Parce que voilà, tu me dis, je parle du self-care. Et en fait, tu dis, moi, je suis en train d'apprendre qu'il faut peut-être aussi lever le pied. Et quel discours ça a entre Nicole et Sarah? Vraiment, Sarah.
Tu dis par rapport vraiment au sujet des articles ou au fait de les écrire, etc.
Au sujet, par rapport vraiment à qu'est-ce que
ma
ça me dit.
Ma propre vision de la sexualité de la femme, etc.
Comment je me situe? C'est peut-être comme ça que j'aurais précisé. À revoir. Ça, c'est moi, le tour des questions à rallonge. Mais comment je me situe? Qu'est-ce que ça vient me dire à moi? Qu'est-ce que je peux encore faire? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que j'écoute vraiment au fond de moi?
Chaque article, déjà, démarre d'une réflexion personnelle, en fait, à chaque fois. Le projet Nicole démarre aussi de réflexion personnelle sur, en effet, sur mon corps, sur ma sexualité, sur le fait de devenir une femme aussi. Et ces dernières années où je suis rentrée dans la vie d'adulte, on va dire, ça a été beaucoup de questionnements aussi, d'être finalement... une fille, une personne qui travaille, une femme d'intérieur, une amie, une amoureuse. Et c'est compliqué, je trouve. Ça a été compliqué pour moi et ça allait toujours de parfois se retrouver dans tout ça. Donc, ce sont tous des questionnements et des réflexions. Et finalement, les articles, quand je les écris, c'est un peu comme si c'était un peu thérapeutique aussi, dans le sens où... je cherche des infos et au lieu de les chercher et puis me dire j'en fais un article et je me dis j'ai envie de le partager avec d'autres personnes qui peut-être se posent les mêmes questions que moi ou même pas du tout mais qui seraient intéressées de voir ce que d'autres personnes pensent aussi
et trouver un répondant ou
exactement
une réaction,
parce que ce que je remarque beaucoup c'est que depuis que j'ai lancé Nicole on me parle tout le temps de sexualité partout où je vais. Comme si j'étais la clé pour pouvoir amener le sujet de la sexualité à table, lors d'un dîner, ou lors d'un voilà. entre amis. Et donc, je me dis, en fait, les gens ont besoin, c'est ça que je disais au tout début,
tout à fait.
Les gens ont besoin aussi de parler de sexualité, on a envie, mm-hmm. parce que ce tabou de la sexualité est
oui,
un non-sens, et ça entraîne plus de négatif que de positif de ne pas, mm-hmm. de ne pas en parler. Alors, ouais. évidemment, pas tomber non plus dans l'injonction de « on doit parler de sexe ».
Non.
Non.
Mais c'est pas le but, on ressent pas comme tel, hein, même quand voilà. on a l'objet en main, hein. Mais ça qui est intéressant, donc en fait je vois le mouvement, il est plutôt dans le sens, ça vient de moi et je fais quelque chose. Et je trouve ça intéressant parce que ce soit entrepreneurial, créatif, moi je suis dans ce propos aussi que j'envoie beaucoup aux personnes que je côtoie dans mon travail, c'est vraiment, c'est ok qu'on parte de soi. Mmh. Il y a quelque chose qui est juste, qui est authentique et ça créera une résonance de toute façon. Rousseau, il disait vraiment parler de soi pour s'adresser à l'universel, donc mmh. je pense que là tu peux toucher plein de gens avec tes questionnements de jeune ouais. femme de ton époque, parce que moi j'entends ça aussi vraiment, c'est Sarah, je te sens drivée, je te sens vraiment bien ancrée dans ton époque, quoi. C'est-à-dire la jeune femme de maintenant, c'est ça, quoi. Et probablement que malgré toi, tu l'incarnes aussi, que ça devient peut-être un modèle ou une référence vers laquelle on a envie de se tourner, mais tant mieux. Alors évidemment, je ne te souhaite pas qu'on te parle que de sexualité au boulot, mais voilà, et au travail, et un souper ouais. en rue. Est-ce qu'on t'a déjà alpagué en rue?
Non, quand même pas. Quand même pas.
J'imagine
et j'avoue que parfois, je dis pas ce soir, j'ai fini la journée, j'ai plus envie
oui.
de... Voilà, parce que c'est vrai que j'en parle toute la journée, j'écris oui. et je pense pas toute la journée. Donc des fois, c'est hyper chouette, il y a des discussions super sympas qui se dégage de ça, et même beaucoup d'idées d'articles, mais rien à faire, je n'arrive pas à en parler sans réfléchir derrière, ah bah tiens, oui. est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire, un article, un post,
c'est
etc.
C'est ta passion et... qui est devenue un travail
voilà,
aussi,
exactement.
Donc le travail, parfois on ferme la boutique à certaines
heures. Voilà, fois, donc des fois, voilà, à 20h, non, je ne réponds plus, j'écoute,
bien
mais je ne réponds plus.
Ben voilà comment ça évolue aussi. Est-ce que, j'entends que tu rédiges évidemment, tu écris depuis le début, Nicole. Il y a un livre qui sort, c'est du travail d'écriture aussi, c'est important de le rappeler, et ne pas non plus balayer ça comme on a fait une mise en page, un graphisme, mmh. il y a de l'écriture, il y a quand même il y a des pages, il y a 200 pages et plus de contenu, donc tu mmh. écris,
oui.
tu as agrégé des rédactrices autour de toi. Est-ce que quand tu te projettes dans la suite de Nicole, tu vois d'autres façons d'écrire hors du blog, hors du livre, faire d'autres livres, parce qu'on voit comme numéro 1, tremper
oui.
le biscuit. Donc moi, je suis un peu curieuse, je fouine. Hein. Comment tu te vois dans la suite, Sarah et ou Nicole, avec l'écriture? Comment ça peut évoluer?
J'aimerais évidemment pouvoir publier d'autres livres, ça c'est sûr. Maintenant, je ne mets même pas de deadline. De... J'ai plusieurs idées. Évidemment, les dîners avec Nicole, la série Dîner avec Nicole, j'aimerais beaucoup la continuer avec à chaque fois les articles de blog à voir. Parce qu'évidemment, c'est un premier, donc il y a aussi des leçons et des erreurs ou des choses à en tirer et à ne plus refaire ou à faire mieux la prochaine fois. Donc ça c'est une chose, et puis pourquoi pas d'autres livres sur vraiment des sujets, alors à ce moment-là, mm-hmm. un sujet en particulier.
Et l'approfondir, le...
Voilà,
ouais,
exactement.
Ça.
Ouais. Mais ça reste pour le moment des idées, mm-hmm. et c'est pas le projet pour l'instant.
Oui, oui, l'avenir est bien large devant
voilà.
toi. Ce que je dis souvent sur les projets et les créatifs multi, hein, qui adorent penser
ouais.
à plein de trucs, c'est cette notion de temporalité,
ouais.
tout va bien. Tu peux dire ça c'est dans un an, ça c'est dans trois,
ouais.
ça c'est dans 10, et d'un coup tu dis on pourra tout faire,
c'est
mais
ça.
Ouais. sur une ligne du temps décalée. Quoi. J'entends aussi, tu l'évoques à demi-mot, cette notion de il y a des choses que j'aurais pu refaire, voilà, il y a le projet éditorial aussi,
ouais.
après le projet d'écriture. Et c'est des questions que je commence un peu plus à poser maintenant dans le podcast. Avant, je focusais beaucoup sur le processus d'écriture et créatif, mmh. mais voilà, j'ai des plumes aussi qui sont à la fin de leur manuscrit, qui sont en train de elles-mêmes entamer des propres démarches, soit du côté maison d'édition, soit
mmh.
auto-édition. Qu'est-ce que tu as retenu de cette première aventure, de positif et de moins positif à revoir, comme tu disais,
mmh.
De cette aventure d'auto-édition qui est très successful à mon sens, hein, mais voilà, c'est une belle image de l'auto-édition qu'on peut envoyer à d'autres plumes. Mais qu'est-ce que tu retiens si tu fais son SWOT, hein, pour reparler en mode business, vu qu'on, malgré nous, on parle de business, c'est comme ça, d'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui était vraiment super et qu'est-ce qui est, ouais, bon, là, à revoir en mode décomplexé, vu que c'est le ton chez Nicole.
Oui. Alors, en positif, je vais dire tout le processus, j'ai tout découvert en fait pendant que je le faisais. Donc, aussi bien l'auto-édition, toutes les démarches qu'il y a eu derrière, toute la mise en page, les choix de typo. C'est quand même dur de faire un choix pour tout un livre. Ça a vraiment été quelque chose de très compliqué. Je pense, en ayant fait plutôt des petits projets à l'école ou même dans ma vie professionnelle, on change vite de style, de charte, etc. Et là, il faut vraiment se focaliser sur un truc.
Et que ça tienne sur la longueur.
Voilà, que ça tienne sur la longueur. Par exemple, maintenant, je changerai bien tout, quoi. Même à la fin, les derniers jours, j'ai envie de tout changer.
Oh, mais c'est normal. Donc voilà, faut pas changer.
À un moment, il faut arrêter. Mm-hmm. Donc vraiment, tout ce processus, toute cette découverte dans ce monde-là, qui m'a fait réaliser que j'aimais beaucoup ce monde-là aussi.
Ouais.
Donc ça, c'était vraiment le positif. En négatif, j'aime pas vraiment dire ça, mais qu'est-ce que je changerais pour un prochain ? Je pense le rapport à l'auto-édition. Comme je te disais, je sais pas si je le referais en auto-édition ou si à ce moment-là j'irais démarcher, on va dire, des maisons d'édition pour le livre, parce que je me rends compte que je ne peux pas tout faire.
Ouais.
Voilà, donc j'ai fait. En fait, pour ce livre, j'ai fait mon max sur tous les points. De la com à la mise en page, à l'écriture, à tout. Je n'aurais pas su aller plus loin que ce que j'ai fait. Mais je pense qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées quand même, notamment par rapport à la com, les relations presse, la visibilité du livre, etc. Mm-hmm. Donc, c'est une question que je me pose. Est-ce que pour une prochaine fois, je ne ferai pas à ce moment-là appel à des professionnels de chaque...
Oui, qui ont chacun leur métier une des casquettes que toi, tu as.
Exactement.
C'est intéressant, c'est vraiment un discours intéressant parce que moi, je suis vraiment dans ces réflexions aussi. Et c'est une réflexion du moment dans le monde éditorial, qu'il soit belge ou autre. C'est qu'il y a vraiment deux écoles, quoi. La maison d'édition, elle t'offre tout ce confort, effectivement, de « on fait pour toi ». Inversement... ton avance, tes droits d'auteur, etc. au niveau financier, c'est quelque chose. Au niveau du contrôle aussi. Et l'auto-édition, c'est l'inverse, quoi. Il y a un investissement conséquent. D'ailleurs, tu as fait un crowdfunding,
oui,
c'est ça. Donc
c'est
voilà,
ça.
Il faut aussi se rappeler que c'est un investissement. Pas que en temps et en énergie, mais en argent aussi. Et à côté de ça, ce que j'entends souvent de positif, c'est quand même j'ai le contrôle. Je choisis cette voie parce que je pense que j'ai plus le contrôle. Comment on fait ? Je t'imagine comme plein de créatifs un peu maniaques du contrôle. Pas péjoratif, mais non, en mode on cache, tu vois, connais beaucoup. je veux que tout soit parfait, nickel, même quand c'est lancé, j'aurais pu refaire, etc. Est-ce que ça a pesé dans la décision ou pas ? De te dire, en fait, j'ai plus de contrôle sur les choses.
Oui. À ce moment-là, oui. J'avais beaucoup de mal à me dire de déléguer, que d'autres personnes rentrent dans ce projet, dans ma vie, d'une certaine façon. Je suis quelqu'un de très, très, très indépendante. J'ai été éduquée comme ça. Et voilà, c'est comme ça que j'évolue aussi. Et donc, le fait de dépendre de quelqu'un ou quelque chose... c'est quelque chose qui m'effraie et que je veux à tout prix éviter. Mais, et là la réflexion est de plus en plus là, parce que aussi le projet évolue et je commence à voir les choses différemment. Je pense aussi, maintenant, je te dis ça maintenant, je ne te l'aurais pas dit il y a 3 mois.
Mais c'est intéressant de cueillir au bon moment, alors dans ta réflexion, j'ai de la chance.
Je pense aussi qu'à un moment donné, pour qu'une entreprise évolue, il faut déléguer à des personnes professionnelles parce que il y a des gens qui font certaines choses mieux que toi. Et il faut le dire et savoir l'accepter. Et donc j'ai perdu le fil de mon idée.
On parlait de s'entourer professionnel.
Ça. Oui, et donc maintenant, j'accepte de plus déléguer. Voilà, le fait de travailler avec des rédactrices va dans ce sens-là. Et je commence à voir le positif de pouvoir s'entourer et déléguer. Et donc de perdre d'une certaine façon le contrôle sur certaines choses.
C'est un peu le deal, hein, oui.
Voilà. Mais finalement, je pense que, en voyant d'autres interviews aussi d'entrepreneurs dans d'autres domaines aussi, c'est une réalité et c'est comme ça. Et c'est vrai, on ne peut pas... on ne peut pas tout faire soi-même et ça revient à la phrase un petit peu cucu mais qui dit c'est quoi, à seul on va plus vite mais à plusieurs on va plus loin, enfin, ou à deux on va plus loin. Bref, je crois que ça peut être transposé aussi au monde du travail et de l'entrepreneuriat, et c'est vrai, C'est vrai. Et donc là, l'idée est montée au cerveau. Donc pour la suite, je pense que je verrai plus les choses.
Et puis se dégager du temps créatif aussi. C'est parce ça. Que voilà, c'est quelque chose qui me parle aussi très personnellement, évidemment. On se lance, on est créatif, on a plein d'idées parce qu'on a eu le temps de réfléchir et de ronger son os, etc. Puis on est dans l'opérationnel, on est en train de faire plein de choses. Et en fait, la question, c'est où est-ce que je retrouve du coup ce temps où déjà il se passe rien. C'est quand il se passe rien qu'il y a des bonnes idées.
Ouais.
Et peut-être que déléguer, c'est ça aussi, accepter qu'on retrouve un peu du temps, mais qu'il va vite se remplir avec de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, visions. Ça, c'est purement de la créativité, que ce soit business ou littérature ou quoi que tu veux. Il faut le faire comme ça, quoi.
C'est ça.
Et justement, pour la suite, maintenant que Dîner avec Nicole est sorti, etc., tu te vois encore appuyer, continuer ce travail de communication, de visibilité, où tu te dis là, j'ai assez fait, il est en train de vivre son histoire tout seul, je passe à autre chose, parce que je sais que tu as tes étapes, que tu as bien passé à autre chose, où tu te dis j'ai encore envie qu'il vive, j'ai encore envie de pousser un peu la mise en lumière, t'en es à quelle étape, si c'est pas trop personnel, indiscret comme question, mais qu'as-tu envie de faire avec Nicole maintenant, quoi?
Enfin, alors Nicole, là, pour le livre, ici, la prochaine étape, ça va vraiment être de rebooster la com. Ça, c'est dans une étape. En fait, le livre est sorti pendant les fêtes. Et je pense qu'il a été un peu noyé justement par les fêtes et par le fait que c'est moi qui me suis occupée de toute la com autour, des relations de la presse, etc. Et là, j'étais face à des personnes qui avaient déjà... je me suis retrouvée face à beaucoup de journalistes qui avaient déjà un agenda qui était complet pour les fêtes, etc. Et donc, finalement, je suis assez contente de comment ça s'est passé au vu des circonstances et des fêtes, etc. Mais donc ici, pour les semaines à venir, je vais relancer un peu la com autour de ça. On a refait des photos du livre, etc. Donc, on va un peu relancer tout ça. Je me suis laissée un peu de temps parce que j'ai... tout fait vite, fin d'année, j'ai fait les photos moi-même, voilà.
Et tout va vite, quand tu lances quoi que ce soit comme projet, tout va vite, et t'es pris dans ce tourbillon.
Exactement, j'ai été prise là-dedans, et finalement, je me dis, c'est cool comme ça s'est passé, mais je pense que ça peut continuer à se passer, et peut-être même un peu mieux dans certains aspects.
Un peu de recul, un peu de repositionnement.
Oui, je me suis laissée un moment de me dire, ok, là, je déconnecte un petit peu du livre, parce que c'est beaucoup d'un
coup. Le self-care dont on parlait.
Voilà, le self-care. Et j'avais mis dans ma liste pour 2022, refaire des communiqués de presse et repenser à une communication autour du livre. Donc ça va être fait dans le courant de l'année, mais je ne me mets pas de pression à nouveau pour ça.
J'aime bien parce qu'on sent justement ton évolution de maintenant, c'est là, je sais que ça va se faire, pas trop de pression, et c'est comme ça qu'on fait mieux finalement.
C'est ça.
Aussi, en tout cas, Nicole continue sa vie, longue vie. Un dîner avec Nicole, maintenant j'entends que oui, on a encore envie de pousser un peu le curseur un peu plus loin, et j'ai envie de te dire tant mieux, heureusement, parce que quand on revisite tout le travail, même le sang et les larmes, les moments down, les moments de soutien, les émotions que ça a convoquées, te dire, évidemment qu'on a envie qu'ils vivent. Enfin, moi, ça me paraît logique.
Mais
tout ce qu'on a mis dedans, on a envie de le faire vivre encore un peu plus longtemps. C'est normal. Jusqu'à ce que ce soit le moment de passer à autre chose aussi. Mais c'est tout ce qu'on souhaite à un dîner avec Nicole, en tout cas. J'ai une dernière petite question qui est plutôt du domaine de... la personne qui le lit et qui le reçoit. On a été beaucoup du côté de je conçois, je produis, je crée. On a eu deux petits retours là, d'une personne plus âgée comme ton papa et d'une adolescente. Mais revenons à ton public cible. Et là, c'est mon côté bibliothérapeute qui va plutôt prendre le lead dans l'interview. Mais je me dis, je peux tellement voir dans ma pratique en 3 ans d'accompagnement de personnes que mon public est essentiellement féminin, que mon public a besoin de lire pour s'informer, pour s'évader, pour prendre conscience de certaines choses. On parle de Mona Chollet, sorcière. Je peux te lister le nombre de personnes qui m'ont parlé de ce livre comme un éveil, une conscientisation, un moment clé. Ma question est la suivante. Comment tu penses qu'un dîner avec Nicole peut vraiment être un livre qui touche les femmes et ce public cible dont tu parlais, qui les touche, qui va les réveiller, qui va leur faire prendre des décisions ou leur faire se sentir moins seule? Comment tu sens que ça peut être cet objet bibliothérapeutique dans les mains d'une femme?
Oui, je pense que ça peut être un petit éveil, dans le sens où, je dirais par étapes, en fait le livre peut se lire d'une traite, où on peut aller chercher des infos au moment où on en a besoin. Moi, c'est comme ça que je lis, en fait, souvent, et tous les livres que tu vois là, c'est vraiment, je vais plutôt aller chercher un sujet soit pour un article ou simplement parce que j'ai envie de m'informer sur ce sujet-là. Et donc, j'ai plutôt allé chercher une info à tel endroit. Et j'aime beaucoup déguster les livres comme ça.
Voilà, dans le champ lexical.
Voilà, et c'est comme ça que j'ai pensé aussi, aussi le livre, de pouvoir dire, bah tiens, j'ai entendu parler de charge sexuelle, qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais. Je vois sur la table des matières, c'est telle page, je vais lire ce livre-là. Mmh. Et donc, j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose de step by step, petit à petit. Ouais. Bah tiens, j'ai lu cet article-là, j'en ai parlé avec ma copine, machin, et puis deux semaines plus tard, c'est sur un autre sujet, mais on sait que le livre est là, on sait qu'il traite tous ces sujets-là, et peut-être pas devoir... Désolée, je vais le repasser, mais engloutir tous les livres d'un coup,
ouais.
Mais aller petit à petit... par étapes. C'est comme ça, moi, que je l'ai imaginé, en tout cas.
Mais c'est génial parce que, du coup, on n'entend pas du tout le côté prétentieux où je vais éveiller, éduquer les femmes, mais c'est j'apporte ma pierre d'achoppement, voilà.
Ben oui, et je trouve le titre s'y prête bien, mais c'est vraiment je pose ça sur la table.
Ouais.
Et puis chacun en fait ce qu'il veut, finalement.
Donc du coup, moi, j'entends beaucoup d'humilité dans la proposition que tu fais... aux autres, au monde, aux femmes. Mmh. Et en fait, j'ai envie même de pousser aux hommes.
Oui. Ah oui,
on est bien d'accord qu'on va le mettre dans les mains de tous les jeunes hommes et plus âgés aussi.
Oui. Oui, il y a pas mal d'hommes qui l'ont lu et qui l'ont apprécié. Ouais.
Mmh. Génial. Donc, c'est super inclusif à ce niveau-là aussi. J'ai une dernière petite question qui est vraiment celle que j'aime poser à la fin de chaque podcast. On a parlé d'écriture, on a parlé du plaisir, je reviens, on va boucler la boucle, j'adore faire ça. Y a vraiment cette notion de plaisir aussi, parce qu'on est parti après dans le travail, la créativité, même le business, etc. Mais revenons à cette notion de plaisir. Mm-hmm. Si tu aimes écrire, tu aimes les mots. Mm-hmm. Tu parles de décomplexer, de lever des tabous, et les mots parfois aident à lever un voile. Mm-hmm. Est-ce que pour toi, Sarah... Il y a un mot ou des mots, tu les entends, tu les lis, il y a des mots qui te délivrent.
Ça, c'est une question.
Et là, je te prends un peu au dépourvu, mais vraiment, avec tout ce qu'on a dit, des mots qui, tu les lis, tu les vois, ça fait du bien, simplement, ou ça t'amène une sensation, une réaction.
Je crois que je dirais le mot la liberté. Ça résonne beaucoup, beaucoup en moi, par rapport à ce que je te parlais tout à l'heure de d'indépendance, etc. Ouais. Le fait d'être entourée, mais quand même de pouvoir m'écouter moi et faire mes propres choix.
C'est ça, ouais.
C'est très, très important et de plus en plus, plus je vieillis, je dirais, plus cette notion de liberté et d'indépendance et de s'écouter soi est très, très importante pour moi.
Merci de me partager ça, et à nouveau ça vient souligner cette cohérence avec tout le projet Nicole, c'est-à-dire que tu t'adresses aux femmes dans cette idée d'émancipation, de plein de choses, émancipation, liberté, tu es fidèle à toi-même et au projet Nicole, donc un grand merci pour tout ce que tu as pu amener comme information croustillante, intéressante, ta grande transparence par rapport à des moments de... même pas de vulnérabilité, mais de moments de vie, etc. Ouais. Nous donner même quelques petits détails des coulisses de comment on auto-édite brillamment son premier livre. Donc, vraiment, un grand merci.
Merci beaucoup à toi de m'avoir invitée et écoutée.
Oui, mais j'adore, moi c'est mon dada. Et longue vie à Nicole, voilà.
Merci beaucoup.
Voilà, cette petite bulle intime se referme. Merci à toi, belle page, blanche, brouillonne, bien écrite, d'avoir écouté. Merci à toi, belle plume, précoce, naïve ou affûtée, d'être curieuse et d'explorer. Si toi aussi tu veux te plonger dans l'univers magique et thérapeutique des mots, tu peux découvrir mes ateliers d'écriture et de bibliothérapie, ainsi que mes accompagnements individuels sur mon site internet, sur Facebook ou Instagram. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oublie pas. Respire. Et laisse les mots te délivrer.